fois, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui avec Habib Sabrakandi. Bonjour Habib.
Bonjour.
Je suis heureux de vous accueillir dans notre radio chrétienne et de vous permettre de vous exprimer sur votre parcours et sur vos convictions. D'origine marocaine, vous avez été élevé dans l'école coranique, puis après le bac, vous êtes venu en France et vous avez été accueilli par les frères de Foucault. Et votre parcours est tout à fait symbolique de ces échanges entre plusieurs cultures. Vous nous parlerez aussi de votre profession, enseignant-chercheur à l'université Jean Jaurès et fondateur et un des responsables de la revue Horizon Maghrébine. Alors votre papa vous a profondément marqué dans la conviction et dans la religion musulmane.
Et la maman aussi.
Et la maman.
Dans sa version de femme qui a eu 9 enfants dans sa vie, dont 2 sont morts, et qui m'a initié à la sagesse et m'a initié à l'art culinaire.
Très bien. Ensuite, le bac, mais en même temps, une ouverture aux humanités.
Oui, effectivement, d'abord... Je reviens sur l'influence quand même du père, qui n'est pas facile à restituer en quelques minutes, mais je peux dire l'essentiel. Le fait que j'ai vécu sous le toit d'un imam m'a permis de m'initier à la fois au versant de la religion musulmane, dans sa version double, c'est-à-dire exotérique, qui est l'enseignement du dogme et des 5 piliers de l'islam, mais aussi le fait que mon père fait partie d'une confrérie musulmane affiliée à une grande institution ésotérique musulmane qui date du XIIIe siècle, qui est la Shadiliya, qui existe à Toulouse en tant qu'institution initiatique musulmane, m'a permis de m'installer vraiment au cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui en France le versant de l'islam du cœur, l'islam intérieur. Et alors, dans ma famille, j'ai eu le bonheur de voir passer dans notre maison, qui est la maison du bon Dieu, qui était ouverte et qui est ouverte jusqu'à aujourd'hui, à des passeurs, à des passants. Donc mon père, effectivement, a assumé la fonction à la fois d'imam, c'est-à-dire qu'il dirige
la prière,
mais il est aussi lecteur assidu du Coran, matin et soir, collectivement, et qui est théologien, qui enseigne les textes des fondements de la théologie musulmane selon l'école malikite la plus dominante au Maghreb. Et enfin, il était sous la direction d'un maître spirituel qui venait chez nous presque une fois par 15 jours, invité avec ses disciples, ce qui m'a permis de découvrir la dimension ésotérique de l'islam.
Avec, pour lui, le souci de respecter les dogmes et la tradition.
Le souci du respect, mais dans un esprit ouvert. Il était, grâce à son adhésion à l'islam ésotérique, c'est-à-dire l'islam des confréries, des institutions musulmanes comme le monachisme chrétien ou la tradition kabbalistique, ça lui a permis de méditer sur le sens caché des versets coraniques.
Et déjà à Marrakech, vous rencontrez une communauté chrétienne qui vous ouvre à une autre représentation du monde ou en tout cas de la foi.
Effectivement, l'avantage aussi de mon parcours, c'est il se trouvait que j'étais élève dans une école publique, bilingue, arabe et français, en face d'un forgeron qui par la suite s'est dévoilé à moi par l'amitié et la confiance comme frère de Charles de Foucault. Quand j'ai eu mon baccalauréat, il m'a vivement invité, le temps de chercher une chambre d'étudiant à l'université, je vous parle de septembre 1976 à Toulouse, il m'a dit qu'il y a une fraternité de Charles de Foucault à Toulouse qui peut t'accueillir le temps de trouver une chambre dans la cité universitaire. Et c'est là où j'étais entre de bonnes mains, puisque Toulouse, ville spirituelle et lieu d'implantation des congrégations religieuses et du monachisme chrétien, m'a permis de rentrer en contact avec le frère André, qui est le grand islamologue chrétien des cultures, qui s'appelle, avec sa plume d'islamologue, lui, Gardet. Et lui, Gardet, était frère et ami et disciple de Jacques Maritain. Donc, du coup, j'étais bien servi pour pénétrer l'intérieur du monachisme chrétien.
Et pourtant, vous faites en même temps des études d'ethnologie, de sociologie, de psychologie. Alors, toutes ces connaissances ne vous ont pas éloigné des croyances qui ont formé votre enfance ?
Eh bien, j'ai pu opérer un glissement sur le fait religieux grâce à ma formation de base qui est de psychosociologue du fait religieux islamique dans la France contemporaine et grâce aussi à mes fréquentations du monachisme chrétien. J'ai eu la chance d'entrer en contact d'abord aussi avec les dominicains de Toulouse, en particulier avec le père Jomier, qui était l'un des grandes figures de l'islamologie française et qui a participé à faire connaître l'islam auprès de l'Église dans son tournant de Vatican II dès janvier 1959. Et Louis Gardet, petit frère de Charles Foucault, le père Jomier, qui est dominicain, c'était vraiment les deux voies royales pour m'installer dans l'étude comparée des religions.
Ce qui va vous permettre de terminer une thèse sur les confréries musulmanes à Toulouse. Mais nous en reparlerons peut-être tout à l'heure parce que toute votre bibliographie, on peut déjà le dire, est résumée dans un beau livre qui sont les mélanges offerts à Bernadette Mimoso Ruiz, qui s'appelle « Les grains de sable seront doux comme le sucre ». Et donc, nous allons évoquer ces questions lorsque nous aurons écouté cette petite interruption musicale.
Avec Benoît Petit.
Et aujourd'hui, avec Habib Samarkandi, je rappelle, vous êtes un des fondateurs et un des directeurs de la revue Horizon Maghrébin. Et je pense que vous allez nous présenter cette revue qui est riche de témoignages et d'ouvertures dans divers horizons. Mais surtout, vous allez aussi nous parler de vos convictions en pratique. Car ce n'est pas seulement des parcours d'intellectuels, mais c'est aussi le parcours d'un homme profondément convaincu de la richesse des relations entre les chrétiens et les musulmans.
D'abord, un petit mot sur note musicale que j'ai choisie.
Oui.
J'ai choisi volontairement un extrait de la voix féminine du Maghreb, en particulier la voix de Fatna bint Hussein, une chanteuse marocaine que nous avons invitée avec le théâtre Garonne à l'occasion de l'année du Maroc en 1999. Et à cette occasion, nous avons publié Traversée musique du Maroc, un numéro spécial accompagné d'un CD et qui est organisé autour de l'oreille occidentale et les musiques du Maroc, avec la participation du professeur Jésus Aguilar, du professeur Mokhtar Zegzoul et de Jacques Oaillon, le directeur du théâtre Garonne. Donc ça m'a fait chaud au cœur d'entendre la voix d'une femme qui nous a quittés et qui a résisté aux dogmes de l'intégrisme et des intégrismes par son chant libre qui célèbre le corps féminin dans sa splendeur. Voilà.
Comme d'ailleurs dans votre revue Horizon Maghrébin, il y a de nombreux articles sur la richesse des traditions culinaires et pas seulement culturelles. Comment il y a à la fois le plaisir des sens et on peut dire que les religions n'étouffent pas le désir, mais essayent de le canaliser.
Effectivement, dans la tradition musulmane, dans son élément triple, c'est-à-dire à la fois l'élément civilisationnel arabe, la dimension civilisationnelle persane et la dimension civilisationnelle turque, ottomane. Donc nous avons un héritage vivant qui traverse les siècles et qui est en permanence en dialogue vivant avec l'apport à la fois gréco-romain mais aussi judéo-chrétien.
Alors, vous êtes aussi dans une grande tradition de pluridisciplinarité. Et lorsque l'on parle de spiritualité, je crois que vous aimez bien dire que ça se situe à trois niveaux, comme le dit bien Michel Foucault.
Oui, effectivement. Moi, j'ai beaucoup apprécié le travail de Michel Foucault, en particulier ces derniers leçon au Collège de France où il a consacré à la fin de sa vie des leçons sur les origines du christianisme et à cette occasion il a permis à la communauté scientifique d'intégrer la dimension de l'influence de l'apport de la pensée grecque sur le christianisme, sur l'islam et sur le judaïsme. Et en lisant l'herméneutique du sujet, j'ai pu relever une dimension de sa réflexion et en particulier la définition qu'il donne à la spiritualité. La spiritualité, écrit Foucault, est une quête, une pratique, une expérience au moyen desquels le sujet opère des changements nécessaires pour accéder à la vérité. Alors je trouve cette définition très complète et complexe à la fois parce qu'il exige le recours à des moyens comme la quête d'un sens à donner à ta vie, et tu passes au moyen de la pratique, en particulier dans les traditions du monachisme chrétien ou de l'islam ou de la Kabbale, par un rituel sous la direction de guides spirituels. Et enfin, cette expérience se traduit par un renoncement. Donc Michel Foucault revient beaucoup à cette série de renoncements en se référant à Socrate quand il dit « Je n'ai cessé d'enseigner aux miens de s'occuper d'eux-mêmes ». Et je trouve ça résume la démarche de la spiritualité dans le monachisme chrétien comme dans l'islam ésotérique.
Alors, ce n'est pas seulement par vos écrits ou par un film dont nous reparlerons tout à l'heure que vous travaillez à ce dialogue interreligieux, mais vous êtes profondément convaincu qu'on ne se connaît soi-même qu'en se confrontant à d'autres,
ouais.
Des amis ou des personnes que nous osons rencontrer, même s'ils n'ont pas au départ les mêmes convictions ou la même étiquette que nous.
Ben, vous êtes en train de résumer le contenu de la rencontre du pape François et du grand imam Ahmed Tayyib de février 2009 au Moyen-Orient. Et nous avons un texte fondateur pour ce dialogue intitulé « La fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune ». C'est cette déclaration d'Abu Dhabi où le pape François et le grand imam Ahmed Tayyib, que j'ai eu la chance de fréquenter et d'inviter au Maroc, à Marrakech chez moi, c'est vraiment la rencontre dans l'amitié qui a préparé les conditions de cette déclaration ouverte sur l'avenir, et c'est un appel aux vivants, c'est-à-dire aux croyants, mais aussi aux non-croyants, que l'idée d'ouvrir et d'être à l'écoute de la foi de l'autre participe de fait à l'unité, à la paix.
Et cela ne contredit pas la fameuse laïcité française ?
Ça dépend de quel islam vous parlez. Moi, je suis en train de préparer un ouvrage sur l'islam toulousain pour dire qu'il n'a rien à voir avec l'islam de Strasbourg, pour la simple raison que la population musulmane, dans sa quasi-majorité à Strasbourg, a une expérience de contact avec les musulmans turcs. Qui appartiennent à un autre école théologique spécifique qui exige un dogme particulier et qui est au contact de l'héritage allemand et du dialogue de la ville de Strasbourg avec toute cette tradition allemande et turque. Donc l'islam toulousain, au contraire, il a sa spécificité puisqu'il est majoritairement maghrébin et d'Afrique subsaharienne et il est au contact de l'héritage l'islam de l'Occident musulman, de l'Espagne, de 9 siècles de tradition des 3 cultures, judaïsme, christianisme et islam, et l'implantation d'une région à connotation culturelle occitane. Donc tous ces ensembles donnent lieu à un islam local, régional, qu'on ne peut pas réduire à l'islam tout court au singulier.
Donc vous comparez ou vous étudiez autant le Coran que la Bible ?
L'avantage mon insertion dans le dialogue des religions m'autorise à la fois à partager la prière avec les autres.
Vous pensez possible ?
Et oui, c'est possible. Mon père, imam, a prié chez les moines bénédictins en Calcutta à Dourne quand je l'ai invité. Il a rencontré les frères moines qui ont fondé en octobre 1952 un monastère au Maroc. Et ce monastère a rayonné, il a mis en contact le monachisme chrétien avec la pratique musulmane. Et c'était mon père a prié dans l'église. L'essentiel, c'est qu'il ne soit pas en direction de l'icône, dans un espace neutre et il a dialogué avec les moines sur la théologie respective du christianisme et de l'islam. Donc nous avons là une vieille tradition d'ouverture de ma famille, de dialogue sur les religions et les cultures des autres.
Je demande souvent pour terminer notre dialogue, quels sont les héros ou les personnages préférés ou ceux qui vous portent ? Je crois que vous avez déjà tout à l'heure évoqué Massignon et d'autres moines.
D'abord, ma famille est fortement marquée par l'initiation ésotérique de l'islam et nous avons une grande admiration pour le Christ, amour, qui est la Vierge Marie, qui est citée dans le Coran. Donc nous avons des figures charismatiques qui nous aident à découvrir nous-mêmes la tradition ésotérique musulmane. Il faut savoir que les musulmans peuvent être aussi des musulmans croyants ou peuvent rester que musulmans. Donc il y a une différence fondamentale que beaucoup de gens ne le savent pas. On est musulman par l'acte d'adhérer à une double foi. Je crois en Dieu et je crois que Mohammed est son messager. Tu es musulman, tu fais partie de la communauté spirituelle musulmane. Mais si vous voulez aller plus loin dans l'acte de foi, il faut être musulman croyant. Et être musulman croyant, c'est croire à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. Donc nous intégrons la foi abrahamique dans ce monothéisme qui a commencé par Abraham et qui a été renforcé, consolidé par le messager de l'islam qui est Mohammed, en passant bien sûr par notre prophète Moïse et notre prophète Jésus-Christ. Donc cette dimension est malheureusement peu connue dans la tradition de l'islam exotérique que nous fréquentons parce que la France, historiquement, en raison de son passé colonial, a plutôt mis l'accent sur une immigration illettrée qui accède à l'islam populaire mais pas à l'islam du texte.
En même temps, il y a un certain nombre de prêtres et de chercheurs qui montrent une inculture aussi du niveau, au niveau des chrétiens, comme le père Baumann et d'autres, et le dialogue interreligieux qui est une construction de tous les jours. Mais peut-être, avant de conclure, je voudrais que vous nous parliez du film que vous allez faire passer, qui est déjà passé, le film sur Toumlilin, qui évoque les cloches de ce dialogue.
Oui, nous avons récemment, avec le réalisateur marocain Hamid Derwish, dont je suis le conseiller scientifique de son film, qui est intitulé « Les cloches de Toumlilin ». Il s'agit de l'essaimage d'un monastère bénédictin des 22 moines qui sont venus en octobre 1952 dans la région de Toumlilin, sous les cèdres de l'Atlas et qui sont installés jusqu'à 1968 après un essaimage à Bouaké et à Ouagadougou. Et c'est ce dialogue islamo-chrétien fondé par les moines bénédictins de Dourne de la Montagne Noire que nous allons projeter le 9 novembre à 18h à l'Université Jean Jaurès à la Fabrique Culturelle.
Merci beaucoup, Habib. Et nous aurons aussi une autre figure de ce dialogue interconfessionnel avec Clément qui viendra nous parler du Tibet la prochaine fois dans une autre ouverture, non plus vers le Maroc et vers l'Afrique, mais plus vers le courant de l'Asie. Merci, Habib.